muraho en Kinyarwanda, muraho, c'est notre salutation. C'est comme si on demande si est-ce que vous existez, est-ce que vous êtes vivant. Donc, et la réponse est muraho. Donc nous sommes vivants et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Sinon, je serais déjà mort dans ce génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. J'avais 11 ans. Et aujourd'hui, 32 ans, pour moi c'est comme hier, on n'a pas vu le temps passer. Ce matin, j'habite à Lyon, ce matin j'allais prendre le train pour venir et je me suis posé la question, alors oui, une amie m'a demandé si je pouvais témoigner. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? J'ai pris un café à la gare en attendant mon TGV et je l'ai renversé sur ma chemise. Je me suis dit, en fait, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce que je vais dire? Donc, on n'a pas de mots, on ne trouve pas de phrases pour dire ce qui est vraiment ce qui nous est arrivé. En même temps, on était prévenus. On a vu ce génocide venir. Quand j'avais environ 5 ans, on faisait encore des soirées culturelles chez moi. Et pendant ces soirées culturelles, on parlait du passé, comment les Rwandais vivaient ensemble, comment ils se battaient ensemble, comment le Rwanda, qui était un jour petit, a grandi jusqu'au Rwanda que nous avons pris aujourd'hui. Donc on racontait d'un grand pays. Et je pense que c'était la première fois que j'ai entendu parler qu'un jour, qu'on serait exterminé. Mon père avec ses amis racontait ce qui s'est passé. Ils ont parlé des années 1930-1931, qui avait un jeune administrateur belge et qui a, donc c'était dans le même contexte de soirée et qui s'est fâché et qui a dit, mais vous savez, nous avons une mission de vous exterminer, vous de tous. La soirée a continué. Et plus tard, on faisait la poésie. Et j'ai sorti mon poème. Je dis Dinganzangabo Murgwa Mahina, Tchane Tchane, Yingam, Yingam Azimishimituko. Et j'avais 5 ans. Ils sont étonnés et mon père m'a offert une vache. C'est la première vache que j'ai eue. Donc, si ces vaches existaient jusqu'à aujourd'hui, je serais vraiment en vrai tout aussi. Parce que être Tutsi, c'était avoir beaucoup de vaches, à partir normalement de 11 vaches. En 90, j'étais à l'école primaire. Nos enseignants, ils ne nous appelaient pas par nom. Tous les matins, il y avait des appels. mais on ne nous appelait pas par nos noms et prénoms. On disait les Tutsis, levez-vous. Les Hutus, levez-vous. Les Trois, et les naturalisés aussi. On se levait, on n'était pas nombreux, on était deux, trois dans ma classe. Et on trouvait que c'était. On avait la honte en fait d'être pas nombreux comme les autres. Alors, plus tard, on a vu que ça changeait petit à petit. Que les enseignants nous tabassaient. Quand on n'a rien fait, on disait oui, c'est des cafards. C'est des serpents. Donc, ils ont commencé tout à nous déshumaniser. Si dans mon accent, au lieu de L, je dis R, ne vous étonnez pas. Je pense que c'est ça la beauté de la langue française, et on a des accents différents. Et au Rwanda, le L et le R, souvent, c'est presque pareil. Donc, j'en suis désolé. Et au Rwanda, on se disait, enfin, on a grandi dans un pays où on croyait un grand pays. Et un bon pays, mais petit à petit qui se transformait en catastrophe. Donc étant jeune, tu as 7 ans, mais on commence à te taper juste parce que tu es tout petit. Vers des années 1991 et 12, nos parents passaient souvent leur temps en prison parce qu'ils étaient tout petits. Et en 93, mon père qui était en prison de Tiangougou, donc en ce moment on habitait dans le district de Sizi aujourd'hui, c'est là où il y a le lac Kivu et la rivière de Sizi. Son petit frère est mort en prison, il s'appelait Jean. Et on a laissé mon père venir, et les autres, les hommes, les femmes de ma famille qui étaient en prison ne sont pas venus. Mais mon père l'a laissé sortir pour venir enterrer son frère. Normalement, on n'invitait pas les enfants au cimetière, mais ce jour-là, on nous a invités. Tout le monde, les enfants, tout le monde était là. Et je me souviens, mon père qui a dit, vous savez, par rapport à ce que nous sommes en train de subir en prison, et l'information qui est là, ce que vous connaissez, c'est que mon frère a eu la chance de mourir parce que la famille est là pour l'accompagner. Et il a dit, nous, on n'aura pas la chance d'être accompagné comme lui. Bon, voilà, je n'ai pas tout compris. Je pense que pour les enfants, on ne comprenait pas comment on ne va pas avoir la chance d'être enterré, d'être accompagné par la famille. Donc, voilà, un petit peu pour vous dire qu'on a connu d'abord cette déshumanisation avant ce génocide proprement dit de 1994. Et c'est comme on vivait sous la peine de mort, on attendait juste la date. Quand on jouait, on ne jouait pas sur les jeux vidéo ou les squishy comme les enfants d'aujourd'hui. On jouait au foot. Et aussi, on avait trop jeune appris à se battre avec des flèches. arrivait à fabriquer nos armes pour jouer. On se tirait dessus. Et je vous dis la vérité, j'étais parmi les meilleurs. Je ne peux pas me prouver. Mais j'étais parmi les meilleurs. Je ne ratais pas mes cibles. Tout ça parce que nos grands frères, nos cousins s'entraînaient toujours pour se battre le jour où ils se battent à quai. Et donc, chez nous, jusqu'en 1994, il y avait toujours des attaques la nuit. Ils tuaient les gens et ils disaient que c'était des bandits. Alors que les bandits qui ciblaient les familles Tutsi. Et la nuit, souvent, on dormait dehors. Dans les champs de bananiers. Et le lendemain, on allait à l'école comme hier n'est passé. Souvent sous la pluie, parce qu'au moment, il y a des grosses pluies, par exemple, le matin. Des grosses pluies, on dormait dehors, on n'était pas équipé de tentes. Donc il n'y avait pas de confort, on n'était pas couvert pour dormir dehors déjà. On ne savait pas à quelle heure on y va, à quelle heure on rentre. Et je pense qu'on a passé presque 2-3 ans souvent à dormir dehors. Je me souviens un jour, on est allé manger et une petite cousine qui nous a dit, on mangeait tous ensemble les enfants, elle a dit, moi j'arrive pas à manger. Comment ça t'arrive pas à manger? Elle a dit, oui, c'est à cause des immigrants, les milices. Je ne comprends pas comment elle n'arrive même pas à manger parce qu'il y a à cause des milices. Donc il y avait la peur, il y avait des angoisses chez les enfants. Donc en 1994, le génocide proprement dit arrive et on dit oui, il y a la vie de Rabia Limana qui s'est fait abattue et que c'est le moment de tuer tous les Tutsis. Donc les massacres avaient commencé, j'avais mes deux grands frères qui étaient à Kigali, dans la maison familiale. Mon frère qui travaillait pour le ministère de l'Intérieur et l'autre qui était enseignant. Mon père qui est allé passer un coup de fil pour demander comment ça se passait. Il a appris qu'ils étaient déjà morts les deux. Et qui a dit, bah, écoutez, on va rester là-bas, on va se battre, on ne va pas fuir. Jusqu'en 13, on avait une famille soudée. Et les milices avaient peur de notre famille. Ils n'ont pas pu attaquer directement. En ce moment, le 13, il y a un cousin lointain qui est venu, je pense que c'était un mercredi, c'était le jour du marché, et qui a dit, vous savez, il y avait des Burundais, de faux débuts, qui avaient vu le Burundi, qui s'était installé dans la zone donc, de cette région maintenant de l'est du Rwanda, Kiwi, Tchangou, et là-bas. Il a dit, il y a des Burundais et des Rwandais qui se sont mis ensemble, ils ont commencé à tuer. Il y a un ami à mon père qui était professeur, Rousseta, si je me souviens de son nom. On l'a attrapé au marché, ils l'ont coupé la tête et les milices ont vraiment sorti son cœur et ils l'ont mangé sur le marché. Ils ont dit, ça c'est un exemple. Tuer tout le monde et manger le cœur, ça va vous empêcher d'avoir peur. Et donc, ce cousin qui est venu m'a dit, écoutez, vous n'avez pas résisté, le mieux c'est de partir. Donc, on s'est préparé pour partir. On a dit, alors là, on ne va pas partir ensemble en vague. Il y en a qui vont partir en... une, deux, jusqu'à ce qu'on puisse rejoindre à la rivière de Rusizi.
Mais en partant, il y avait déjà, on trouvait des morts d'Arabie, et donc c'était trop tard pour pouvoir traverser. On a eu la chance de se retrouver là-bas, et comme on avait une ferme là-bas vers le Sizi, on savait comment y aller, on nous avait dit de se retrouver à notre ferme. Et en arrivant là-bas, et il y avait des Congolais qui étaient là déjà prêts et qui avaient négocié déjà avec ma famille en avance et que quand ça se passe mal, qu'ils vont pouvoir nous aider à traverser la rivière. Et donc la plupart des membres de la famille qui étaient là, on a pu traverser. Et en arrivant au Congo, quelques jours après, il y a le commissariat qui a amené un mandat d'aller contre mon père en disant que comme il avait des fermes dans la vallée d'Obsizi, vers Kamanyola, Luvungi, vers Uvira, on dit mais cet homme a beaucoup de vaches qu'il a volées au Rwanda, et ce n'est pas ses vaches, c'est les vaches de Hutu qu'il a volées, et donc il doit être arrêté. Et c'était signé par le préfet de Tiangougou, Bagambiti, Emmanuel, apparemment. Et donc, mon père s'est fait arrêter. Et papa, il a négocié, il a donné un petit peu d'argent et on l'a laissé sortir. En sortant, il a dit, vous savez, on n'est pas à l'abri. Et il faut qu'on puisse aller en Tanzanie. On avait conseillé les policiers congolais que c'était mieux de quitter cette zone. Et mes deux sœurs les ont emmenées à Bukavu. Il y avait une communauté de sœurs religieuses, il y avait des Rwandais dedans. Et qui les connaissait un peu, et il a confié mes deux sœurs aux religieuses. Il est revenu, on devrait partir. Et j'étais souvent avec lui, c'est un géant, il avait environ 2,18 m. Et moi j'étais petit, il marchait vite, et moi je courais derrière lui. Et on est sorti, il y avait un endroit où on allait se baigner, dans les montagnes, il y avait de l'eau chaude et de l'eau froide qui se croisaient quelque part. Et on est allé se baigner, il m'a dit, mais tu sais, on m'a conseillé de partir. Mais non. Il m'a dit à la sauce de Kakwatse Amaraso Moya Karenza. Et le même soir, on s'est fait attaquer là-bas. Il y avait, dans la nuit, il y avait des ministres rwandais qui parlaient le Kinyarwanda. Il y avait des militaires congolais dedans qui parlaient le Lingala. Et ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer. Et moi et mon petit frère, il y a une porte, on dormait dehors, par terre sur une natte. Et il y a des briques qui sont tombées sur nous, et en lançant des grenades. Et une porte qui est tombée aussi sur nous. Donc ils marchaient sur nous pour chercher, ils ont trouvé mon père. Je me souviens qu'il a dit que c'était un militaire congolais qui est arrivé en avance, qui a demandé de l'argent. Et à Lingala. Et mon père qui a répondu, qu'il a dit, vous n'êtes pas venu pour l'argent. Et tout de suite, les Rwandais qui sont entrés dans la maison, et mon père a reçu des coups de machette, et ma mère qui essayait de sortir de la maison. En sortant, elle a eu deux coups de machette et deux couteaux, et elle est hurlée. Et nous, on restait sous la porte. Donc, la chance. Après, il y a eu un coup de feu. Ils ont tiré sur mon père. Et là où on dormait, il y a le sac qui courait par terre là où on était. Je pense que c'est une odeur qui m'a jamais quitté. Des fois, la nuit, je me réveille et encore je sens cette odeur. C'était l'odeur fort. Et le sac qui était chaud, qui courait là où on dormait. Quelques minutes plus tard, presque une heure, je crois, c'était vers une heure, 2 heures de la nuit. Ma mère qui est revenue, qui a dit, j'espère que mes enfants sont encore vivants. Et là, mon petit frère qui avait 5 ans, qui ne me lâchait pas, qui m'avait attrapé. Moi, je voulais sortir et j'appelais mon père. Et mon petit frère qui m'avait attrapé, qui ne me lâchait pas. Et donc, quand ma mère est revenue, et on est sorti de là, et elle nous a dit, après elle est tombée par terre. En tombant par terre, les voisins congolais sont venus, c'est eux qui nous avaient hébergés, ils avaient donné une maison. Ils ont amené ma mère à l'hôpital. L'hôpital était en Pérou, il n'y avait pas d'infrastructure là-bas. Je pense que c'était environ plus de 15 km à pied. Et nous, il y a des Rwandais qui étaient dans cette région aussi, réfugiés qui sont venus. Et on a enterré mon père là-bas rapidement et on est parti. Et 2-3 jours, les gens qui nous avaient récupérés nous ont dit, et pour votre sécurité, maintenant le RCR a monté un cas de réfugiés pour vous mettre tous ensemble. Et comme ça, ils vont pouvoir vous protéger mieux. Et là-bas, on a resté quelques jours et puis on nous a ramenés au Rwanda. En nous ramenant au Rwanda, c'était compliqué. On avait plus de maisons, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'adultes. C'était difficile. Et on ne savait pas si ma mère allait aussi survivre. Mais on a eu la chance et elle est revenue. On a vécu quelques années ensemble. Après, elle est morte. Quand on parle de ce génocide, je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Quand il y a la négation de ce qui s'est passé, alors qu'on l'a vécu, et surtout quand ils trouvent que c'est des pays qui ont déjà quand même devraient être assez intelligents pour comprendre et pour éduquer au futur, et si tu trouves que c'est déjà des adultes qui étaient au Rwanda, je suis allé assister il n'y a pas longtemps dans une conférence d'un général français qui était à l'armée, qui s'appelle Jacques Hogard. Et il parlait dans l'introduction à l'université de Sciences Po à Lyon. Il disait, mais vous savez, il a décrit les Tutsis comme on nous décrivait avant. On dit que c'est les gens qui sont très dangereux dans la région, qui sont fins. Donc, en parlant, moi, là où j'étais dans la santé, alors là, je pense qu'il faut voir que je fais partie de ces gens. Mais j'étais allé juste pour comprendre comment aujourd'hui on parle de ce génocide. J'ai eu le courage de me lever quand ils nous ont donné le temps de poser des questions. Je dis, vous avez dit que vous étiez capitaine, que vous étiez au Rwanda, que vous avez rien fait, que vous avez sauvé les gens. Je pense que peut-être que c'était individuel, que ce n'était pas l'armée française en général. Je pense qu'il y avait aussi, comme partout, des gentils, des méchants. On ne sait pas. Mais lui, en tout cas, il disait quoi, mais il ne regrettait rien, qu'ils n'ont rien fait. Je lui dis, mais nous, on était là. Hein? On a vu quelques individus quand on est rentré au Rwanda, comme en fait en rentrant, on croisait les milices rwandais et des militaires qui les accompagnaient comme ils fuyaient vers le Congo. Nous, en rentrant au Rwanda, et les gens, dès l'entrée, enfin, fuyaient vers le Congo. Donc, on a croisé. Donc, à part les gens comme ça, qui maintenant qui sont dans la négation, il n'y a pas d'eux, il y a des. Dans notre région, donc, qui vont maintenant, il y a le génocide contre les Tutsis qui sont au Congo, des Banyamulenge que je connais, qui ont partagé en fait, la même vue des pasteurs déjà qui avaient des vaches et qui vivaient là-bas dans cette plaine d'Obsisi depuis longtemps, dans la vallée d'Obsisi. Et je trouve que, est-ce que le monde évolue, hein? Si aujourd'hui, on peut même pas dénoncer ça, hein? Est-ce qu'il y a, vous peut-être qui êtes ici, qui faites partie des décideurs ou qui avez la chance de les rencontrer de temps en temps, l'ONU, est-ce que l'ONU dénonce ça? Est-ce que l'organisation internationale, est-ce que au moins vous arrivez à leur dire que ça, que c'est quelque chose à ne pas faire aujourd'hui, à ne pas répéter, hein? So never again, so plus jamais qu'on parle tout le temps, alors que ça se passe encore aujourd'hui. Bref, je sais que des rescapés comme moi, et puis que l'État rwandais a fait beaucoup pour qu'on continue à se battre, à nier cette négation du génocide, donc la négation de cette négation du génocide. Et je sais aussi qu'il y a des pays amis qui aussi qui ne tolèrent pas ça. Et tous ensemble, j'aimerais bien qu'on continue à être solidaires pour combattre ces idées négationnistes. Je remercie tout le monde. Surtout ceux qui sont ici avec nous, ceux qui sont au Rwanda, tous les rescapés, leurs amis, les familles qui commémorent qui, au Rwanda, qui partout dans le monde. Et en terminant, je voulais aussi encore remercier une femme formidable qui est ici avec nous ce soir. J'ai lu son bouquet qui et son titre était Rwanda means universe. Le Rwanda signifie l'univers. Et c'est l'esprit, on a grandi dans cet esprit. On disait que partout où nous sommes, c'est au Rwanda. Donc le Rwanda d'ici, l'esto solidaire, l'esto fort pendant ces moments difficiles et à l'avenir pour continuer à commémorer ensemble, pour continuer à vivre ensemble. Et de toute façon, on n'a pas de choix. On va vivre ensemble. Si on ne nous a pas exterminés en 94, c'est pas ici qu'on va pas pouvoir survivre. Je pense que c'est encore beaucoup plus facile, au Rwanda encore facile. Je vous remercie beaucoup.